Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Boulin Rafut, ravi de vous retrouver pour un numéro un petit peu spécial et toujours accompagné d'Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir pour ce nouvel opus de Boulin Rafut. Vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Un invité qui parlera peut-être pas au moins de 20 ans, comme on dit, mais qui a une sacrée et longue belle carrière.
Oui, Arnaud, le monde et son évolution nous oblige à nous révolutionner chaque jour et nous poser les bonnes questions sur notre condition. Je vais loin peut-être, mais pour s'humaniser, il est important de se regarder en face. Nous avons tous autour de nous des sources d'inspiration, des chemins de vie qui forcent le respect et qui permettent de relativiser nos quotidiens. David Berti fait partie de ces hommes-là, des types qui affrontent l'adversité et qui la transforment en force. Champion à 5 reprises avec le Stade Toulousain, vainqueur de la Coupe d'Europe, le palmarès semble presque anecdotique à côté du combat qu'il affronte et qu'il mène au quotidien depuis maintenant 25 ans. Touché par la sclérose en plaques, le bonhomme ne s'est pas laissé abattre et a fait de son handicap une putain de force, et son quotidien est une source d'inspiration et de motivation pour tous les handicapés de la vie que nous sommes. Parce que le handicap n'est pas que physique, nous avons tous besoin de ce genre de témoignages pour nous permettre de garder le cap dans les moments compliqués et de relativiser un petit peu nos mots. Aujourd'hui, David se lance des défis que peu d'entre nous pourraient affronter. Ascension du Kilimandjaro, une Coupe du Monde avec l'équipe d'Espagne et une vie bien remplie d'aventures. David est aussi conférencier, il va nous parler de son parcours, de son combat et de cette force devenue presque naturelle pour humaniser un peu plus encore ce fameux handicap qui est encore trop marginalisé. Bienvenue dans Poulain Rafut, David, salut.
Merci beaucoup, merci Raphaël, merci Arnaud de m'avoir sollicité pour participer à cette fameuse émission.
Eh bien, David, merci, vraiment. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu as partagé il y a quelques temps ta joie d'avoir été retenu avec l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde de rugby à 13 fauteuils, qui se déroulera donc en novembre à Londres, si je ne me trompe pas.
C'est bien ça.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est née cette aventure?
Ah, ben, si je raconte, c'est une blague. Je savais qu'il y avait la Coupe du Monde qui se jouait. J'ai un joueur au Stade Toulousain Handisport qui joue pour l'équipe d'Espagne, et un jour dans le vestiaire, je lui dis, écoute, si un jour vous avez blessé pour la Coupe du Monde, n'hésite pas. Moi, j'ai mes grands-parents et ma mère à la double nationalité franco-espagnole, donc je pourrais venir. Et lui, il me dit, mais je savais pas, j'étais pas au courant, je vais en parler, tout ça. Mais moi, pour moi, c'était vraiment, j'avais lancé ça comme une blague. Et puis 15 jours après, je reçois un mail en disant, mais si tu veux participer au stage de préparation, t'es le bienvenu. Mais écoutez, ben, je peux pas refuser. Jouer une Coupe du Monde, même si c'est pour l'Espagne, j'aurais préféré la France, mais la France, je savais que j'avais déjà fait des stages, mais bon, j'avais pas été retenu parce que pas assez d'expérience en rugby à 13 fauteuils. Et puis là, l'opportunité, donc pour le moment, c'est le stage. On est 12. Je crois savoir qu'il n'y a que 10 qui vont être retenus. Mais le stage, c'est ce week-end. Donc, je suis prêt.
Alors vas-y, Raph.
Non, justement, mais je pense qu'on a la même question, Arnaud. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le rugby fauteuil? On sait que le rugby fauteuil est champion d'Europe aujourd'hui. On avait
tout
reçu Adrien Chalma il y a peu de temps. Et la différence, on en a échangé hier justement tous les deux pour que tu puisses nous expliquer la différence entre le rugby fauteuil et le rugby à 13. Et la différence, elle est assez cool, je trouve, comme tu me l'avais expliqué.
Donc, c'est vrai que quand on parle de rugby fauteuil, en fait, il y a deux discipline qui existe. Le quad rugby, celle que l'équipe de France a été championne d'Europe récemment, qui est réservée aux personnes atteintes au niveau des quatre membres, se joue avec un ballon rond. Les règles, pour résumer, c'est un peu les règles du football américain. C'est un ballon qu'il faut amener dans une zone. On peut faire des passes en avant, des passes en arrière. Il y a des fauteuils, il y a des fauteuils défenseurs, des fauteuils attaquants. C'est un petit peu ça ressemble un petit peu au football américain. Puis après, le rugby à 13 fauteuils, la discipline que je pratique, qui est ouverte, qui est réservée normalement aux personnes atteintes au niveau des membres inférieurs, mais qui est ouverte aussi aux valides et mixtes. Voilà, c'est une mixité que moi j'ai adoré quand j'ai découvert ce sport. Et puis bon, c'est les règles du jeu à 13. Donc c'est un ballon ovale, on fait des passes en arrière, on marque des essais, on tape des drops, on transforme les essais. C'est un match, c'est 2 fois 40 minutes. On finit avec les épaules en braque et les mains pleines d'ampoules et pour arracher. Mais c'est vraiment un plaisir. Maintenant, je me régale à pratiquer ce sport.
Quand on a reçu Adrien Chalmin, David, qui est donc le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil, et qui venait d'être sacré championne d'Europe, il disait que ce serait un grand pas si ce titre était perçu à travers la performance et non pas à travers le handicap. Est-ce que tu partages ? On a vraiment le sentiment, et pour avoir vu des images et assisté une fois à une rencontre dans le 13e à Paris, Raph y était également, on a le sentiment que c'est quand même un sport sacrément physique.
Ah ben tout à fait. Moi, la première fois que on m'a parlé de passer une période où je cherchais à refaire du sport, et la première fois qu'on m'a parlé de rugby fauteuil, les premières images que je suis allé voir sur internet pour voir ce que c'est, bon, je suis tombé sur du quad rugby et j'ai vu un petit clip pour me montrer ça. Et j'étais abasourdi. J'étais vraiment les impacts, la détermination des personnes. Je voyais plus le handicap. Je voyais des sportifs qui avaient envie de gagner, qui avaient envie de se défoncer pour attraper un ballon, pour marquer. Et voilà. Et le rugby à 13 fauteuils, c'est ça aussi que j'ai découvert, c'est que au bout de quelques minutes de jeu, on oublie le fauteuil. On voit des gens en train de jouer, de vouloir gagner un match. Et c'est ça que j'ai adoré, parce que c'est vraiment, on transforme l'image du handicap. On ne voit plus l'handicapé fragile qui n'ose pas faire beaucoup de choses, tout ça. Là, non. Quand on les voit se démener, ce qu'ils font sur le terrain, la fragilité, on l'oublie.
Alors justement, David, c'est ça qui est un petit peu aussi paradoxal, c'est que depuis le début de l'apparition de ta maladie, tu t'es toujours battu justement pour éviter le fauteuil roulant. J'ai lu différents articles quand on a préparé cette émission avec Raphaël. Et en même temps, du coup, tu te projettes sur un sport où tu es en fauteuil roulant. Il y a comme une forme de paradoxe, c'est-à-dire que tu combats l'idée du handicap et en même temps, tu finalement t'en assures quelque part la promotion avec cette discipline.
Tout à fait, c'est vrai que ça a été long. Quand on m'a diagnostiqué la maladie, mais comme je dis souvent, bon, la première image qui m'est venue en tête, c'est le fauteuil roulant, la dépendance. Donc pendant 5 ans, j'ai vécu avec ce fantôme du fauteuil qui m'a isolé qui m'a fait m'isoler parce que je ne voulais pas montrer ce que j'allais devenir, parce que pour moi, j'allais finir sur un fauteuil. Donc le jour où j'ai voulu reprendre un sport parce que j'avais envie de commencer à me battre face à la maladie, c'est une personne qui est venue me demander que voilà, il a créé un club de rugby à 13 fauteuils, il faudrait que tu viennes essayer, voir tout ça. J'ai dit écoute, super, je serais content de retoucher un ballon de rugby, mais le deuxième mot que j'ai entendu derrière, fauteuil, non, pour moi, il est hors de question que je mette mes fesses dans un fauteuil. Pour moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Il a insisté plusieurs fois. À un moment donné, je n'avais plus d'excuses. Je suis allé devant le gymnase. Je me revois m'arrêter devant sur le parking et me dire « mais qu'est-ce que tu fous ici ?» Tu vas rentrer dans, tu vas voir des gens en situation de handicap qui fragiles, qui se bougent pas, qui tristes, qui vont essayer tant bien que mal de jouer au rugby. Va-t'en, tu vas perdre ton temps. Puis je suis dit non, tu peux pas, t'as dit que tu venais, rentre. Et le moment où je passe à la porte, je vois tout l'inverse de ce que je pensais. Je vois des gens en train de rigoler, de s'éclater, de jouer au rugby, de faire des passes, des croisés, des sautés, des marquer des essais. Et là, je me dis, David, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Là, il te manque une pièce au puzzle, il y a un truc que tu n'as pas compris. Je suis resté à l'entraînement, j'ai regardé. Et à la fin de l'entraînement, je suis allé voir l'entraîneur. Je lui ai dit, mercredi prochain, je reviens. Je vais essayer. Je prends la décision de m'asseoir sur le fauteuil. Et je dis d'abord, le ballon, je ne veux pas le toucher. Je veux maîtriser le fauteuil. Donc, je tournais en rond tout seul dans le gymnase. Et je regardais du coin de l'œil, je regardais toujours. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi eux, ils arrivent à rigoler, à s'éclater. Et moi, je n'arrive pas. De temps en temps, il me jetait le ballon. Je le rejetais, je ne voulais pas l'attraper. Et malheureusement, à un moment donné, j'ai attrapé. J'ai fait une passe, j'ai commencé à jouer avec eux. L'entraîneur vient me voir, me dit « David, dimanche un jour, tu viens. » Je lui dis « T'es joueur ou quoi ?» Je dis « Je vais être ridicule sur le terrain, je maîtrise rien. » Non, il me dit « Tu viens. » Et ce jour-là, de préparer mon sac, de remettre les affaires dans le sac, d'arriver au rendez-vous, de prendre le bus, d'arriver dans un vestiaire, un tsunami de sensations et de souvenirs me sont tombés dessus. Je ne sais pas, des odeurs de camphre, l'odeur de synthol, de tout, qui me sont revenus. Et à la fin du match, j'ai dit, ça y est, tu as trouvé ce que tu voulais faire. Et depuis, voilà, 2013, j'ai pas arrêté. Et c'est une renaissance pour moi. Outre la renaissance de retrouver un sport que je me régale, c'est une aventure humaine aussi. J'ai découvert des personnes qui m'ont montré, au début, j'étais dans une période où je voulais me battre face à la maladie. Et en fait, toutes ces personnes m'ont montré que ça ne sert à rien de se battre face à un handicap ou une maladie. En fait, il suffit d'apprendre à vivre avec. Et donc, voilà, ils m'ont fait changer mon fusil d'épaule et pour moi, c'est un renouveau. C'est, comme on dit, c'est une troisième vie qui s'est présentée à moi. Il y a eu la vie rugby à 15, la découverte de la maladie et maintenant la découverte du sport handi.
Est-ce que, David, est-ce qu'on peut parler de thérapie quelque part? Est-ce qu'il y a une forme de thérapie à la pratique de ce sport, outre le fait que, quand on a été sportif de haut niveau comme toi, avec le palmarès qui est le tien, il y a aussi ce besoin d'adrénaline, ce besoin de dépenses énergétiques également. Mais est-ce que quelque part, c'est aussi une thérapie mentale, psychologique?
Ah, pour moi, c'est une thérapie. Moi, le sport, à un moment donné, quand j'ai recommencé, que je recommençais à me battre face à la maladie, un jour, quand j'ai écrit mon premier livre, la personne qui m'a aidé à écrire le premier livre, elle m'a dit « David, il va falloir que tu penses à arrêter, baisser un petit peu les soirées, les repas, tout ça, parce que il me semble que tu as… » forcé un petit peu. La première chose que j'ai fait le lendemain matin, je suis allé me peser et là je vois 106 kilos. J'ai dit là, David, là il va falloir, parce que j'avais arrêté le sport. Pour moi, le sport, on m'avait dit c'est terminé pour vous. Donc j'avais tout arrêté et j'ai dit là, il va falloir que tu reprennes quelque chose, il faut que tu refasses quelque chose. Donc j'ai essayé des choses que je pouvais faire parce que courir, je ne pouvais plus courir, les gens ne répondaient pas. Donc j'ai essayé le tai chi, le yoga. J'ai essayé tamis comme mal du basket, du foot en salle, de la natation, un peu de musculation, tout ça. Mais il me manquait toujours, j'étais content au début, mais il me manquait quelque chose ce soir. Et c'est là que j'ai découvert le rugby à 13 fauteuils. Et c'est là que j'ai changé mon fusil d'épaule. Et depuis maintenant, depuis que j'ai découvert le rugby fauteuil, j'ai arrêté mon traitement aussi, que je faisais depuis 10 ans par rapport à la sclérose en plaques. Depuis 2013, maintenant, je ne prends plus rien. En accord avec mon neurologue, bien sûr. Pour moi, je lui ai dit, mon traitement, c'est tout le sport que je peux faire, toutes les choses que je veux tenter. J'ai rien à perdre à le faire. Et puis les rencontres que je fais, que j'explique que moi je l'ai trouvé dans le sport, mais les personnes, tout le monde n'aime pas le sport. Donc si vous aimez le bricolage, la cuisine, la peinture, le dessin, mais allez-y à fond, faites à fond votre passion. Pendant que vous faites ça, vous ne pensez pas à votre petit tracas du quotidien. Et à un moment donné, vous allez retrouver un lien social avec d'autres personnes, vous allez partager et vous allez oublier tout ça. Vous allez revivre.
David, on se l'était dit hier, le héros du genre humain, de manière caricaturale, dans notre cher milieu qui est le rugby et même dans le sport en général, c'est pas ça. On a l'impression que c'est celui qui plaque 30 mecs sur un terrain. On a Dupont aujourd'hui, Ntamack, pour citer le Stade Toulousain, bien entendu, c'est à ton cœur. Mais l'après-carrière, on le sait, c'est très compliqué. On en parle beaucoup ici, de faire le deuil du sportif que l'on a été. Est-ce que le héros du genre humain aujourd'hui, c'est pas celui qui se regarde en face, qui affronte justement les problématiques qui l'intéressent? Je parlais en introduction du handicap. Il y a le handicap physique, mais aussi le handicap mental. Et je pense qu'on a tous un petit peu on est tous un petit peu des handicapés de la vie, jusqu'au moment où on se regarde en face, on s'accepte tel que l'on est, et ce qui nous permet de pouvoir enclencher des défis au quotidien. Est-ce que toi, en fait, ce handicap ne t'a pas permis, tel le phénix, de renaître aussi de ce héros que tu as été et de devenir le héros de ta propre vie aujourd'hui dans les défis que tu mènes? Parce qu'on a besoin, je pense, en après-carrière, de personnes comme toi, de personnes qui ont vécu la merde, parce que c'est ce qu'on a pu vivre. Moi, je l'ai vécu aussi, et on est nombreux et nombreux à le vivre. Mais cette renaissance, en fait, elle est hyper inspirante, quoi. C'est une manière de s'humaniser, surtout dans un milieu qui est un peu caricaturé comme le handicap, quoi.
Oui, tout à fait. Moi, je ne cache pas. Bon, c'est vrai que j'ai passé 5 ans au fond du trou, coupé, isolé, de dépression, des idées morbides, tout ça. Mais jusqu'au jour des rencontres, des phrases, des petites phrases, des petites choses. J'étais dans une période, j'avais en face de moi deux routes. Soit tu laisses tomber, tu entraînes tout le monde avec toi. Soit tu te bouges le cul et tu essaies de faire quelque chose. Donc, j'ai dit, on va essayer de faire ça. Puis, un jour, je changeais les couches de ma deuxième fille. Je me mets à penser à des idées assez sombres, tout ça. Et là, j'éclate en pleurs et je la prends dans mes bras et je lui dis non. Le jour du mariage de mes filles, je veux être là, je veux les accompagner. De là, je sais pas l'ordre de tout ça, mais je rencontre un journaliste que tu dois connaître, que j'avais perdu de vue depuis longtemps, et on se raconte. Moi, je lui parle de ma maladie, je lui renvoie la question, toi, qu'est-ce que tu deviens, la famille, tout ça. Et là, il me dit, écoute, je me remets, j'ai perdu mon épouse lors du tsunami à Phuket en 2004. Et là, quand il me dit ça, j'ai dit, pourquoi tu as posé cette question? Pourquoi je ne pouvais pas savoir. Et il me voyait que j'étais gêné. C'est là qu'il me dit une phrase, il me dit, David, maintenant, moi, la vie, je la prends comme un long parcours à vélo, avec des cols plus ou moins durs à passer. Mais ces cols, pour les passer, il faut pédaler. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Tu as ton rythme, mais tu pédales. Et je ne sais pas pourquoi cette image, elle m'a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, je vais pédaler, je vais avancer. Et c'est là que j'ai commencé à décider à me battre, à utiliser tous les moyens qui se présenteront à moi pour faire parler de la sclérose en plaques. Donc, je me suis rapproché de la Fédération française de rugby, j'ai écrit le livre, tout ça. Et voilà, j'ai vu que j'étais sur le bon chemin. Je m'estime chanceux aussi, c'est que pour moi, la sclérose en plaques, ce n'est pas une maladie mortelle. Donc, je vais être encore là pendant un petit moment. Si je dois broyer du noir le temps qui me reste, je vais trouver le temps long et les gens qui sont autour de moi aussi. Alors, autant le positiver et faire quelque chose de constructif.
C'est en ça que je disais que le parcours est hyper inspirant et c'est assez top. Moi, une question que je me pose, c'est comment a réagi le monde du rugby, notamment le Stade Toulousain, parce qu'on sait que la grande valeur du rugby, c'est être au soutien. Mais sur les après-carrières, c'est en train de se structurer. Hein. Beaucoup de clubs sont en train de structurer pour accompagner celles et ceux aussi qui nous font rêver au quotidien dans le rugby et dans le sport aussi en général. Mais est-ce que le club t'a accompagné sur ces initiatives? T'es quand même un, Enfin, vu, je parle de ton palmarès, moi, tu m'as fait rêver. Hein. Alors, c'est pas toi qui m'as appris à faire des 4 deb parce que j'ai jamais su apprendre. Jamais. Et je t'ai envié tellement. Mais super joueur à avoir joué. Donc, est-ce que ce stade toulousain, qui a cette culture club aussi, et la culture des anciens, on le voit avec le staff aujourd'hui, est-ce qu'il t'a accompagné?
Oui. Moi, ça m'a surpris parce que pendant 5 ans, je me suis coupé. Il y a plein de gens qui voulaient m'inviter à voir des matchs ou faire des soirées, tout ça. Moi, je ne voulais pas, j'y allais pas. Et quand j'ai commencé à revenir, j'ai commencé à les solliciter. Et vraiment, ils ont ouvert les portes comme si j'étais parti avant-hier. Et vraiment, j'en suis reconnaissant à ça. Après, vraiment, chaque fois que je faisais des opérations pour des calendriers ou tout ça, des photos, les portes toujours étaient ouvertes. Vraiment, je les en remercie.
Alors, le Stade Toulousain, David, c'est le club où tu pratiques, hein, justement, le rugby de fauteuil. Depuis quand tu pratiques exactement, du coup parce qu'on en a parlé, mais on ne l'a pas daté.
Alors, je pratique depuis 2013. La petite anecdote, voilà, il y en a une aussi, c'est que j'ai découvert le rugby à 15 à Saint-Jory. C'est un petit village à 25 km de Toulouse, donc l'école de rugby. Ensuite, je suis parti de Saint-Jory, je suis parti au Stade Toulousain. J'ai découvert en 2013 le rugby 13 fauteuil à Saint-Jory. Et depuis maintenant 3-4 ans, je suis au Stade Toulousain.
Le parallèle est...
Voilà, je cache pas que le jour où j'ai remis, c'est pour moi un petit plaisir personnel, le jour où j'ai remis le maillot du Stade Toulousain, j'ai mis la petite larme est tombée parce que j'ai dit ça y est, ta mallette, ta cèpe, ce qu'on en plaque, elle t'a foutu dehors du Stade Toulousain alors que moi je voulais terminer ma carrière parler, là-bas. Ouais. Et voilà, je suis revenu par une petite porte, mais je suis revenu dans la famille.
Alors, une question toute bête, David, mais est-ce qu'on est un meilleur joueur de rugby fauteuil lorsqu'on a été international, lorsqu'on a gagné 5 boucliers de Brennus, lorsqu'on a été champion d'Europe? Est-ce qu'on est un meilleur joueur de rugby fauteuil?
Du tout.
Ah bon, du tout. Même pas un petit avantage?
Si, on peut faire des plus belles passes, la vision du jeu, mais bon, non, mais j'ai... Je galère encore, hein. Je suis meilleur qu'au début, mais je galère.
Ouais. Et David Berti qui se retrouve dans une équipe de rugby fauteuil, est-ce qu'il signe des autographes à la fin des matchs?
Non, je crois pas, non. Je crois pas.
Non, on se posait la question de façon anecdotique, mais c'était juste pour savoir ce qu'on disait en préambule. Les moins de 20 ans ne se souviennent peut-être pas de David Berti, mais ce fabuleux joueur, Christian Califano, me disait il y a encore pas plus tard que la semaine dernière que tu étais probablement l'un des plus forts à ton poste à la grande époque du Stade Toulousain. Et Cali, qui est plutôt connaisseur pour un pilier, on va dire, c'est de quoi il parle.
Ouais, plus fort, je ne sais pas. J'étais pas mal. En club, j'étais pas mal. Je me régalais. C'était aussi parce que peut-être que j'étais dans un collectif où vraiment j'avais tout pour m'épanouir. Donc je me régalais, mais c'est vrai que bon, je m'éclatais, je me régalais sur Internet.
Alors justement, on va revenir un petit peu sur ta carrière. On parlera du prochain projet en fin d'émission. On laisse le suspense pour ceux qui n'ont pas écouté le début de l'émission. Mais la maladie a été très longue à diagnostiquer, hein, David. C'est ce que tu racontes notamment dans ton livre et dans différents articles. Tu as dit que tu avais eu beaucoup de mal à l'accepter. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ta carrière au Stade Toulousain? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
Moi, il m'en reste d'énormes souvenirs, une aventure humaine extraordinaire, avec des titres, bien sûr, des titres, des victoires, des défaites, des joies, des peines. Moi, je garde ça. On sait qu'avec tous les joueurs pratiquement qui sont maintenant dans le staff, on s'est connus en junior pratiquement la plupart en sport-études à Jolimont, et on a grandi ensemble, on a conquis, on a fait des titres, on avait tous la même envie de jouer, de remporter tous sur notre passage.
Et l'écriture juste revenir sur l'écriture en elle-même, ouais. J'ai écrit un livre il y a 10 ans et c'était très thérapeutique et ça fait un bien fou en fait. Comment tu l'as écrit? Est-ce que l'objectif au début c'était d'en faire un livre? Moi j'ai vécu un truc assez extraordinaire, c'est qu'il y avait le stylo où j'avais mon clavier, ça sortait tout seul. Ça dégueulait de partout, il fallait que ça sorte et bon, un livre en est sorti. Est-ce que c'était la même expérience pour toi ou il y avait quelque chose où on est venu à toi pour écrire?
Non, en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, je voulais utiliser tous les moyens qui se présentaient devant moi pour parler de la sclérose en plaques. Puis un jour, je vois Fabien Pelous, Xavier Garbajosa écrire des livres. Et je dis, pourquoi pas moi? Et j'ai quelque chose à raconter. Mais j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que je n'ai pas le même passé sportif que Fabien ou Xavier. Donc, mes filles et les gens autour de moi me disaient, mais si, il faut que tu le fasses, tu le fasses. Puis un jour, j'en parlais à un neurologue de ce projet. Et là, il me dit, David, il faut que tu le fasses. Parce que tout ce que tu vas dire dans le livre, tu vas le dire de patient à patient. Nous, on dit les mêmes choses, mais le problème, c'est qu'il y a la barrière de médecin et patient. Là, tout le monde va être sur le même pied d'égalité. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, allez, feu. Donc, je n'ai pas les talents d'écrivain, tout ça. Donc, il y a une personne qui m'a aidé. J'ai cherché une personne pour m'aider à faire ce livre. Et voilà, ça a découlé qu'il y a eu un livre. Donc, en 2012, je l'ai sorti, Rien ne vaut la vie. Et là, maintenant, alors, comme je dis, ce livre, je l'ai écrit quand j'étais dans la période où je voulais me battre. J'ai découvert le rugby à 13 fauteuils. Maintenant, j'ai le projet d'en écrire un deuxième pour montrer qu'en fait, ça ne sert à rien de se battre, il suffit d'apprendre à vivre avec.
Ah, c'est
un nouveau projet.
Justement, David, parce que tu racontes que les premiers symptômes de la maladie arrivent en 97. Tu viens d'être sacré encore champion de France avec le Stade toulousain. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu comment ça s'est passé la suite? Parce que j'ai lu un témoignage très fort de ta part où tu racontes qu'au début, personne ne comprend ce qui se passe, quoi.
Ah ben moi non plus, je ne comprenais pas. Alors en fait, ça a commencé à la saison 96-97, mois de février. Un œil où je ne voyais plus rien. Donc, je vais en chercher, on a fait des examens. On m'a dit que c'est peut-être un herpès sur un nerf optique. Donc, je fais un traitement. Ça dure quelques semaines, quelques mois. La vision revient. Je finis la saison. On a le titre en 97. Donc tout va bien. Moi, j'étais content. Je peux rejouer. Tout va bien. L'intersaison, je commence à préparer la nouvelle saison. Je m'entraîne. Et là, je fais 2 tours de terrain. C'est comme si j'en avais fait 30. Les jambes, quand je fais des séances de vitesse, les jambes qui ne répondaient pas comme il faut. Donc, je me dis…
Toi qui avais la réputation d'être en plus un des joueurs les plus rapides du championnat.
Oui, mais là, la préparation, j'étais tout seul, donc je ne pouvais pas me comparer. Donc, ça allait. Je me suis dit, bon, écoute, tu arrêtes, tu te reposes, tu reprends début de saison avec le Stade et ça ira. Et là, on reprend l'entraînement, saison 97-98. Et là, sur le terrain, tout le monde me rattrape. Et là, même Claude Portelan m'a rattrapé. Donc, je me dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Pour les plus jeunes, c'était un sacré pilier du Stade Toulousain, mais qui n'était pas réputé pour sa grande vitesse.
Ouais. Et donc, j'ai dit, là, je me posais beaucoup de questions. Et comment rentrer dans l'ère du professionnalisme? Donc, on demandait beaucoup d'entraînement, tout ça. J'ai dit, bon, mais David, t'es un gros fignant, tu t'en as pas assez, t'es pas entraîné cet été, voilà, tu t'en payes tu le payes cash. Donc, je décide à m'entraîner encore plus, mais je me fatigue encore plus. Sur le terrain, ça va pas. Puis, le Stade Toulousain ne veut pas me conserver. Enfin, j'avais un contrat encore de 2 ans, mais moi, je voulais pas faire banquette. Je dis, bon, tu pars, tu vas te relancer ailleurs. Je suis parti à Brive, j'ai signé qu'un an, parce que dans l'objectif de dire, je me relance et tu reviens à Toulouse. Donc, j'arrive à Brive, j'arrive avec double fracture du petit orteil. Donc, je lui ai dit, tu arrives à un nouveau club avec ça. J'ai fermé la bouche, j'ai rien dit, je serre les dents et tu essaies de tenir. Et donc, je me suis entraîné. Et puis là, ça a enchaîné des blessures, déchirures sur déchirures. Donc, on ne me fait pas jouer. À la fin de la saison, ben, pareil, on ne peut pas me garder. Donc, je quitte le club. Je pars à Montauban. Et à Montauban, premier entraînement, premier crochet, le ligament, un ligament du postérieur du genou qui lâche, bim, rebelote des blessures. On souhaite pas me faire opérer. Le médecin du club me dit ça sert à rien. On fait de la musculation, ça va tenir, tout ça. Mais bon, je n'arrivais pas à courir, j'avais mal, trop mal, tout ça. Donc tous mes soucis, je les mettais sur le rugby, sur le, l'entraînement, tout ça. Puis à la fin, des problèmes d'équilibre.
Toujours en continuant des des examens aussi en parallèle, à essayer de chercher un petit peu le commande de puisque ce que tu avais eu à l'heure pour moi en 97.
Non, parce que quelque part j'étais je suis un peu fautif aussi, c'est que je taisais, je voulais rien dire, je voulais pas qu'on aille faire plus loin, moi je voulais jouer. Je voulais jouer, je voulais retrouver moi. Donc je disais, je disais pas ce que tous mes problèmes. Voilà, j'ai une déchirure, j'ai un genou. C'était des problèmes d'entraînement, des problèmes au rugby. Je disais pas que j'avais des problèmes d'équilibre, que j'avais les jambes qui répondaient pas bien, tout ça. Je disais non, c'est un problème d'entraînement où je mange pas bien, où je fais un peu trop la fête, je cachais un petit peu les choses.
David, permets-moi de te couper, mais Raph, oui. Dis-moi si je me trompe, ça ressemble quand même aussi à des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans le rugby professionnel, où des joueurs cachent leur dépression, où des joueurs cachent des blessures par peur d'être jugé, par peur de rater un match, par peur de ne pas être performant. C'est quelque chose qui est... Aujourd'hui, on a l'impression que la parole se libère un peu plus dans le rugby professionnel, mais ce que David a connu, finalement, il y a plus de 20 ans, c'est toujours d'actualité, non ?
Oui, je pense qu'il y a on en a déjà parlé, mais c'est le déni. C'est ton métier, tu es payé pour ça, tu es plutôt bien payé aussi. Donc, et puis derrière, il y a tout le côté un peu caricatural de l'homme moderne qui n'est pas faillible, qui n'est pas vulnérable et qui doit montrer patte blanche, qui doit montrer qu'il est encore capable de performer. Et puis il y a la notion de vieillir aussi après derrière, quoi. Enfin, la notion d'être contre-performant. Et c'est sociétal, on ne nous apprend pas à ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de prises de parole qui permettent justement d'humaniser un petit peu les moments dépressifs qu'on peut vivre pendant carrière. Et c'est important ce genre de témoignage aussi de la part de David, c'est de reconnaître en fait que oui, j'ai pris ma part en fait de responsabilité parce que il y a un moment, j'ai fermé ma gueule. Sauf que on nous apprend pas à ça. Je parle vraiment pour l'homme en particulier. On nous apprend pas à être faillible, on nous apprend pas aussi à montrer, je dirais, la part sombre un petit peu de l'histoire et à reconnaître que ça peut partir un peu en sucette. Donc c'est aussi de le reconnaître. D'où l'importance de ce que tu nous dis là, David, aujourd'hui, c'est de reconnaître à un moment que en fait la machine s'enraye. Moi j'ai mis 10 ans à le reconnaître. Hein. J'ai arrêté à 25 ans. Et au bout à 35 ans, je me dis, heureusement que j'ai arrêté. J'avais déjà 6 opérations. Au bout d'un moment, c'est que mentalement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un contexte aussi qui faisait que. Donc, c'est important, ce genre de témoignage. Et c'est générationnel. C'est-à-dire que nous, on l'a vécu. Alors, avec 10 ans on a 10 ans d'écart, David. Hein. Mm. On l'a vécu et l'importance de le témoigner. Parce que les jeunes ont besoin de ça aussi, de se dire à un moment donné, t'as le droit juste de poser un peu les valises et puis de te poser aussi des bonnes questions. Et l'importance aussi, pour conclure, des gens aussi qui sont autour, quoi. Donc, la responsabilité, elle est partagée entre eux. On ne peut pas demander à ce que les gens voient ce que l'on cache à l'intérieur. Mais d'ouvrir justement la voie permet en fait à tout le monde d'essayer de comprendre qu'on peut fonctionner différemment et puis accepter ces moments difficiles. Ouais.
David, est-ce qu'il y avait une peur de l'échec quelque part pour toi par rapport au joueur que tu avais été, par rapport à la machine qui était le Stade Toulousain à l'époque, vous marchiez un petit peu sur tout le monde. Est-ce qu'il y avait cette peur de l'échec, cette peur du regard des autres finalement?
Ah oui, sûrement, mais quand rien n'allait, je ne comprenais pas. Je me suis dit, moi, je voulais finir ma carrière au Stade Toulousain, je voulais continuer à remplir ma vitrine de trophées, parce que je savais que j'étais dans un endroit, c'était là où je devais finir. Parce que je voulais pas aller ailleurs et donc quand tout ça me tombait dessus, ben voilà, je suis retrouvé, je suis plus le comme disait Raph, le Superman, le super joueur. Voilà, je redeviens quelqu'un de banal, d'insignifiant, on va dire.
Ah, ça, c'est la crainte. Alors justement, tu parles de Superman, on va parler d'un nouveau volet de ta carrière de sportif, parce que pour le coup, c'est du sport. Je reprends juste pour présenter un petit peu le projet, une déclaration de ta part. Tu disais « Ma sclérose en plaques, elle m'a bouffé ma carrière de rugby, foutu en l'air pendant des années, elle m'a choisi, maintenant à elle d'en baver. » Est-ce que tu peux nous dire quelle est la nature de ce projet complètement dingue?
Alors, la nature de ce projet, voilà, il y a quelques années, j'ai rencontré une Vanessa Morales, qui est une spécialiste de raid en montagne, qui fait des courses en montagne. Elle cherchait un partenaire pour faire ses courses, tout ça. Et je venais de rentrer donc, chez mon nouvel employeur, donc une mutuelle à Toulouse, la mutuelle du Rempart. Et donc, on la sympathisait et elle faisait toutes ses courses au profit d'associations contre la sclérose en plaques. Donc, on a sympathisé, tout ça. Et puis, un jour, elle allait tenter le record du montée et descente du Kilimanjaro. Et elle m'a demandé d'être le parrain de cette course. Donc, je l'ai fait. Et cette course-là, elle a battu le record ce jour-là. Mais il n'a pas été homologué parce qu'elle avait dû arrêter le chrono pour sauver son guide. Alors, voilà. Et de colère, donc elle a retenté plusieurs fois la montée du Kilimanjaro, et puis jusqu'au jour, elle a réussi à battre le record. Donc je l'ai appelée pour la féliciter quelques jours après. Et là, elle me dit, écoute David, ce week-end, j'étais avec Marc Livremont, Laurent Arbeau, dans les Pyrénées, tout ça. On a eu une idée, on va refaire monter le Kilimanjaro, mais cette fois-ci, on veut que tu viennes avec nous. Et là, je lui dis, mais t'es jobarde. Pour moi, c'est impossible, je ne peux pas, j'ai jamais fait de montagne, tout ça. Mais si. Et au fur et à mesure qu'elle insistait, trouver des mots pour changer d'avis, mais je voyais le mot possible en train de clignoter. Et puis, je lui dis, mais attends, si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais si tu aurais pu le faire. Je lui dis, allez, feu. Je lui ai dit, feu, je le fais, je tente. Si j'y arrive, je serai le plus heureux du monde. Si je n'y arrive pas, je serai le plus heureux du monde aussi. Donc, je l'aurais fait. Donc, c'est parti. C'est une aventure. En plus, avec des copains, avec
Marissa. Alors, ouais, justement, tu ne vas pas être tout seul. C'est là où on voit aussi l'entraide, la solidarité. Raph en parlait tout à l'heure, cette fameuse valeur. On voit voilà, les anciens quand même, Thomas Castagnède, hein, qui t'a partagé aussi du temps, Marc Livremont, Laurent Arbeau aussi, qui est aujourd'hui préparateur physique, si je ne m'abuse. Comment en gros tout ça s'est organisé? Raconte-nous un petit peu. Tout le monde s'est dit, allez, feu.
Ben oui, quand Vanessa m'en a parlé, elle m'a dit donc il y avait Marc Livremont, Laurent Arbeau qui venaient, il y avait d'autres personnes aussi, puis après c'est greffé Sébastien Morisot, elle m'a demandé si...
Ancien joueur du CABBG pour les plus jeunes aussi.
Voilà, et Perpignan.
Oui aussi, pardon.
et donc elle m'a dit, c'était une copaine, tout ça, mais j'ai posé la question... Un jour, j'ai croisé Thomas qui me parle, qui a appris que je faisais le Kilimanjaro. Il m'a dit, ah, c'est mon rêve, j'aimerais le faire, tout ça. J'ai dit, tu veux le faire? Allez, viens. Et c'est parti comme ça. Puis un autre copain aussi. Et voilà, c'est comme ça. Donc là, chacun de son côté fait sa préparation, fait des randos en montagne. Voilà.
Justement, comment ça se prépare, David? Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément situer le Kilimanjaro, c'est quand même le plus haut sommet d'Afrique qui culmine à 5895 mètres. Accessoirement, déjà, en termes d'oxygène, ça ne doit pas être simple. Sans rentrer dans ton intimité, David, mais comment tu gères ta préparation et quelle est finalement la principale difficulté pour toi?
Alors, moi, difficulté pour ça, moi, comme je ne me rends pas compte de ce que ça va être, pour moi, il n'y a pas de difficulté. La seule peur que j'ai, c'est ma réaction face au mal de l'altitude. Tout le monde me dit, on a beau travailler, on a beau faire ce qu'on veut, ça, on ne pourra pas le travailler. Ça, je ne sais pas le jour J, je ne sais pas comment je vais réagir. Pour l'instant, ça fait depuis mi-janvier, je travaille beaucoup de travail hypertrophie sur les jambes. Après là, mais il faudrait que je fasse un petit peu de dénivelé un petit peu pour voir ce que ça fait. Mais bon, c'est un travail pratiquement 3-4 fois par semaine, je m'entraîne. pour ça.
Et est-ce que c'est pas aussi un travail d'équipe, sachant que tu pars quand même avec pas mal de monde. Est-ce que dans les moments qui seront un petit peu plus compliqués, comme tu l'as dit pour toi, peut-être le mal de l'altitude, mais aussi une fatigue physique à un moment donné, est-ce que ça va s'organiser autour de toi comme ça peut s'organiser sur des moments de temps faible? Est-ce que t'as...
Mais c'est pour ça que j'ai dit oui, parce que je sais que je serai pas tout seul. Il y a un groupe, il y aura un groupe avec moi. Il y a Vanessa. Et puis je vois les réactions qui ont fait quand j'ai dit oui. Toutes les réactions ont dit mais voilà, on va te porter, on va t'amener là-haut. Et j'ai dit mais ça y est. Malheureusement, t'as mis le doigt dedans. Maintenant, tu peux plus t'échapper. Là, t'es obligé d'y aller. Puis je vois les réactions qu'il y a. Je peux pas. Je suis obligé de le faire.
Est-ce que tu sais si, médicalement parlant, tu prends des risques, David? J'imagine que tu as demandé l'accord à tes médecins, à ton neurologue, par rapport à la sclérose en plaques. Est-ce qu'il y a un risque par rapport à ça? Est-ce que tu as mesuré cette difficulté supplémentaire éventuellement?
Sincèrement, j'ai dit oui sans prendre de renseignements, parce que j'ai vu qu'il y a déjà des personnes atteintes de sclérose en plaques qui l'ont fait. Il y a d'autres personnes avec des handicaps différents qui l'ont fait. Donc je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire. Voilà, moi il y a 15 jours, j'ai vu un documentaire sur le Kilimanjaro où 4 anciens alpinistes accidentés en situation de handicap, ils l'ont gravi. Quand j'ai vu ce documentaire, quand je les écoutais parler, des fois j'avais l'impression de m'entendre parler. Et j'ai dit, si eux, ils sont arrivés avec des handicaps très lourds, je veux dire, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Je dis feu. Voilà. Dans les 4-5 ans où j'ai déprimé, que je me suis coupé du monde, j'ai toujours regretté de ne pas avoir rencontré une personne qui m'explique, qui me dise, tu vas pouvoir faire du sport, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir fonder une famille, tu vas pouvoir vivre. Peut-être que dans cette période, j'étais pas prêt à l'écouter. Peut-être que je l'ai croisé, mais j'étais pas prêt à l'écouter. Mais le jour où j'ai ouvert mon esprit, j'ai dit, mais si je peux être le petit grain de sable, le petit déclic à une personne, eh bien, je veux le faire. Donc voilà.
Mais je pense que c'est sur ton... C'est top parce que sur ton parcours, et je le disais, le héros du genre humain, très honnêtement, c'est celui qui fait une fois le tour de lui-même et qui revient justement avec ce genre de message, quoi. J'ai connu la merde, j'en suis sorti, et avec tout ce que je suis aujourd'hui, par mes actions, en fait, je peux inspirer les gens aussi à franchir ce cap, à s'humaniser, à franchir ce cap pour accepter des défis. Je voudrais juste faire une parenthèse, que ce dont tu parlais, en fait, il y a ce grain de folie, en fait, du moment où, en un regard, tu te dis, bah ouais, en fait, on va être au soutien, et puis on va pouvoir partir. Je pense à Castagnet, je pense à tous ces mecs-là, en fait, qui vont être autour de toi, autour de ce projet. J'aimerais juste rendre hommage, moi, à un ami, en fait, qui a 2 ans de plus que moi. C'est le frère de mon meilleur ami, Luc Closier, qui s'appelle Liam Closier. Et du jour au lendemain, ils avaient leur meilleure amie, fille, qui avait la sclérose en plaques aussi. Et ils se sont dit, bah, en fait, on va faire ce qu'on appelle les marathons du désert. Et ils l'ont embarqué avec elle, donc ils l'ont porté aussi à certains moments. Et ils ont fait ça. Et je pense que ce brin de folie, ça permet aussi de créer aussi une forme de cohésion et d'atteindre des objectifs très, très forts, très, très forts, juste avec cette notion de soutien, quoi. Et il y a énormément de gens qui font ça. Et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en lumière, d'où l'importance. Et je pense qu'on te suivra sur ce défi-là.
Bien sûr,
je pense qu'on refera une émission, et ça je m'engage, on s'y engage avec Arnaud au retour pour savoir comment ça s'est passé, parce que c'est trop inspirant, je pense. Enfin, moi j'adore ce genre de parcours, c'est pour ça que je t'ai dit, je voulais t'inviter dans l'émission parce que c'est trop inspirant, et ce genre d'initiative, il y en a tellement, il faut les mettre en lumière, quoi. C'est hyper important, et ce grain de folie, il est nécessaire, quoi.
Ah oui, il le faut.
Alors justement, David, on a l'impression que tu recherches aujourd'hui quand même l'adrénaline. Peut-être que tu le disais tout à l'heure, quand tu es rentré dans ce vestiaire avec les odeurs d'huile de camphre, quand tu as découvert le rugby fauteuil, c'est aussi une histoire d'équipe, quoi, de copains. Comme on dit, Jean-Pierre Rive disait, le rugby, c'est une histoire d'hommes et de ballon, puis quand il n'y a plus le ballon, il reste les copains. Là, voilà, en gros, c'est encore les copains. On a l'impression que tu recherches aussi ça quelque part.
Ah oui, tout à fait, parce qu'au départ, les sports que je faisais, c'était un peu individuel, où ce n'est pas du tout dans mon ADN. Quand j'ai retrouvé ça, j'ai retrouvé mon sport. Et puis, un groupe qui était comme ça. En plus, voilà, je découvrais un milieu que je ne connaissais pas, le handicap, le milieu de handicap. Moi, je suis arrivé, les personnes en fauteuil, je voulais toujours les aider, tout ça. Et ils me disaient, mais non, je n'ai pas besoin d'aide. Si j'ai besoin, je te le demanderai. Moi, je m'éclatais quand on partait en déplacement dans les aires d'autoroute pour s'arrêter pour boire un café, pour aller aux toilettes, tout ça. Et qu'on descendait du bus, tous habillés avec la tenue du club, les gens nous regardaient, ils voyaient des gens sur les deux jambes, en fauteuil, des amputés, tout ça. Ils disaient, mais c'est quoi cette équipe de bras cassés? Et donc, les gens venaient, ils nous posaient des questions, on leur expliquait, mais ils ne comprenaient pas. Ils voyaient les valides qui se moquaient des handis, les amputés qui se moquaient des valides. Et c'est quoi ce truc? Et voilà, c'est ça. C'est maintenant, je suis arrivé, pour moi, le fauteuil, il n'existe plus. Moi je suis dans un club de rugby avec des gens et on a le nom Andy parce qu'il le faut, mais pour moi on est un club, voilà, c'est un club de copains, copines, parce qu'il y a des filles aussi, vraiment, mais c'est quelque chose que, voilà, que j'ai retrouvé, c'est une renaissance.
Alors justement, la transition, elle est parfaite. Tu parles d'un club. Ce club, c'est quand même le Stade Toulousain. Et on avait dit qu'on en parlerait un petit peu. Forcément, ouais. David, tu as marqué l'histoire de ce club. Et aujourd'hui, à la tête de ce club, il y a beaucoup de tes anciens partenaires. Hein. On pense à Didier Lacroix, à Jérôme Casalbou, à Hugo Mola. Quand tu vois tous ces anciens partenaires, David, réussir ce qu'ils ont fait sur ces quelques derniers mois, dernières années avec le Stade Toulousain, après avoir connu une période un peu difficile, hein, on le rappelle, Stade Toulousain quand même champion de France en titre, champion d'Europe en titre avec une génération de joueurs merveilleuse. Quel regard tu portes un peu sur le travail effectué par tes anciens partenaires qui sont toujours aujourd'hui, j'imagine, tes amis?
Oui, toujours, c'est toujours des amis, plaisir de les revoir. Vraiment, je suis admiratif de tout le travail qu'ils ont fait et admiratif d'avoir redonné le club à la ville, vraiment redonner l'envie aux gens de revenir au Stade Toulousain, de prendre du plaisir et de même presque de faire que le aller voir un match, c'est un prétexte pour retrouver un moment de fête. Et bon, en plus qu'ils se chaque fois avec de beaux matchs, de belles prestations, vraiment un plaisir à revoir, à avoir ça.
Est-ce que tu as le sentiment que cette génération aujourd'hui de joueurs toulousains, elle ressemble à la génération que vous étiez et que on est parti pour une espèce d'hégémonie sur quelques années?
Et oui, des fois, c'est vrai que ça, il y a des similitudes qui font repenser à certaines choses. Mais, écoutez, c'est tout le mal que je leur souhaite.
C'est quoi la culture toulousaine? Parce qu'on le voit de l'extérieur, on l'envie aussi. Moi, j'ai discuté avec René Bouscatel il y a quelques semaines et qui me disait le Stade Toulousain, c'est la Stade Académie et le Stade Français, c'était la Star Académie. ça se perdure de génération en génération. Qu'est-ce qui crée ce lien? Même si j'ai un bout de réponse, parce que et beaucoup de clubs commencent à vous imiter un petit peu sur l'importance des anciens. Tu fais partie du staff, en fait. Indirectement ou directement, tu fais partie du staff du Stade Toulousain parce que tu es au Stade Toulousain, tu es joueur du Stade Toulousain. Donc, l'importance des anciens, c'est en partie ce qui fait aussi la réussite, le lien qui est créé entre les générations.
Oui, tout à fait. Voilà. Moi, je suis arrivé au Stade Toulousain parce que j'avais qu'une envie, c'est de faire partie de ce club, de rentrer dans l'histoire de ce club. Voilà, et c'est vrai qu'on voit que tous les gens qui viennent ont envie de faire partie de ce moule. Et donc, on a envie de rentrer dans tout ça, d'écrire l'histoire de ce club. Après, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on a tous envie de gagner? Je crois que voilà, on arrive tous joueurs de rugby, on a tous envie de remporter quelque chose. Mais là, je sais pas, la mayonnaise elle prend bien. Je sais pas si c'est la géographie qui veut ça. Puis elle prend bien aussi dans toutes les sections du Stade Toulousain. L'autre équipe de quad rugby qui joue au Stade Louis Randy a été championne de France. Nous, on va jouer la demi-finale du championnat de France. Ça fait que la gagne, elle est partout dans tout le. Dès qu'on parle Stade Toulousain, elle y est.
Bon, bah, écoute, David, franchement, je ne sais pas, je vais laisser le mot de la fin. Je suis un peu sans voix, je vais laisser le mot de la fin à Raph, parce qu'on a assisté, je crois, à Raph, un très, très beau témoignage. Et comme l'a dit Raphaël, je pense que ça vaudra le coup de faire un débrief du Kilimandjaro, parce que j'imagine que ça va être une belle et sacrée aventure avec Marc Lièvremont, Laurent Arbeau,
tout à fait.
Sébastien Morisot, une belle brochette d'anciens rugbyman qui se lance dans un beau défi. Raph, c'est à toi de conclure.
Ouais, je vais pas être long en fait. Chapeau, merci David. Et j'étais, je pense que tu fais partie de. Je te mets dans le top 3 et peut-être même sur le podium. Et je te mettrai peut-être en numéro 1 sur. Ça fait 5 ans hein, maintenant que je fais Poulain Rafut. Je suis très peu intervenu parce que ça coulait de source et franchement c'est fort. Je suis admiratif. J'ai eu des petits moments d'émotion assez forts en t'écoutant parce que je pense que le handicap. Pour l'avoir vécu de manière psychologique, on en avait parlé hier, hein, tous les deux, je l'ai vécu de manière psychologique, et quand t'en reviens, tu sais de quoi, je sais de quoi tu parles, on va dire, même si je ne suis pas atteint physiquement, on va dire, donc chapeau pour tout ce que tu mets en place, je n'ai pas d'autres mots, donc le plus loin possible, le plus fort possible, et on revient vers toi, et tu reviens vers nous dès que tu as fini le Kilimandjaro.
Justement, c'est prévu à quelle date, David, le Kilimandjaro?
Eh bien, le départ est prévu le 27 juin. On commence la montée le 29. 5 jours de montée, 2 jours de descente.
Bon, on prend rendez-vous pour la rentrée, du coup. Ça laissera le temps de se remettre d'accord. Les vidéos claires, d'accord. Peut-être, parce que face à la difficulté, ça risque de pas toujours être simple, quand même. Un grand, grand merci pour ce témoignage, et j'invite vraiment tous les jeunes joueurs, tous ceux qui peuvent rencontrer des difficultés, qui peuvent, que ce soit psychologique ou physique, à écouter ce témoignage. Je pense qu'on en sortira forcément plus fort et plus grand, que ce soit sur les terrains de rugby ou ailleurs, peut-être sur les sentiers de montagne qui mènent au Kilimandjaro. Messieurs, Poulain Rafut, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.